E-Radio, l'invité de la rédaction, Loussurance.
On va donc discuter de l'obésité avec vous, Martine Laville. Vous êtes professeure de nutrition aux Hospices Civils de Lyon. Bonjour, merci de m'accorder cette interview. Alors pour commencer, comment définit-on l'obésité? Ça veut dire quoi concrètement être obèse?
Alors l'obésité, c'est une définition médicale. Et d'ailleurs, les patients n'aiment pas du tout qu'on dise vous êtes obèse, etc. Donc, il faut faire attention à la façon dont on explique ce qu'est l'obésité. Et les patients ne veulent pas être définis uniquement en fonction de leur poids. Donc, le terme qu'on emploie plutôt, c'est des personnes vivant avec l'obésité ou atteintes ou souffrant d'eux. Mais on ne peut pas qualifier quelqu'un juste par ce qualificatif d'obèse qui est souvent très mal vécu. Alors, comment on le fait? C'est une définition médicale qui part d'un indice qu'on appelle l'indice de masse corporelle, qui est égal au poids en kilos divisé par la taille en mètres au carré. Parce qu'évidemment, le poids dépend de sa taille, donc on est obligé de normer un peu avec cet indice. Et il a été montré qu'en fonction de cet indice de masse corporelle, plus il augmentait, plus on avait un risque de surmortalité. Donc en fait, l'obésité est définie médicalement comme un risque de surmortalité et on dit qu'on a un poids dit normal jusqu'à un indice de masse corporelle égal à 25, qu'on est en surpoids entre 25 et 30 et qu'on est en obésité au-delà de 30. Évidemment, c'est des normes hein, qui peuvent être variables et notamment on s'aperçoit que suivant les ethnies et notamment les Asiatiques qui ont une corpulence de base différente, il faudrait une définition un petit peu différente avec de l'obésité, par exemple, pour des indices de masse corporelle dès 27-28. Et puis, c'est bien sûr chez l'enfant, la définition est différente puisque l'enfant est en croissance hein, et donc il y a une définition qui est liée à l'âge et avec des courbes en fonction de l'âge. Et puis, on pense que cette définition n'est non plus valable, pas valable chez les personnes âgées, puisque quand on vieillit, on a des modifications dans la composition corporelle et donc on ne peut pas avoir les mêmes normes.
Et quels sont les dangers pour les personnes qui vivent avec l'obésité?
Alors, le problème de l'obésité, c'est que ça va entraîner un certain nombre de maladies associées en plus à une mauvaise qualité de vie. Alors, les maladies associées, ça va être des maladies qu'on dit métaboliques, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies du cœur. C'est aussi une augmentation du risque de cancer, mais c'est aussi bien sûr des problèmes mécaniques, hein, avec plus que de problèmes d'arthrose, des problèmes de flébite, des problèmes de varices. Ça peut être également d'autres problèmes parfois plus sérieux, comme des problèmes neurologiques avec une hypertension intracrânienne, c'est des choses qui donnent des maux de tête et un risque, mais qui sont plus rares. On considère en fait que l'obésité peut être associée à 18 maladies à laquelle on en a rajouté une avec l'épidémie de Covid, puisqu'on s'est aperçu de la grande fragilité des personnes vivant avec l'obésité lors de l'épisode de Covid, puisque ce sont elles qui ont payé le plus lourd tribut de mortalité et qui se sont le plus retrouvées en réanimation. Donc effectivement, l'obésité va entraîner des maladies associées, mais l'obésité aussi entraîne de la stigmatisation, parce que c'est une maladie qui se voit physiquement, et qui fait qu'on a pas mal de préjugés encore sur des patients vivant avec l'obésité, et que ça, c'est très délétère bah, sur leur morale, mais également sur la capacité à trouver un emploi, sur plein de choses de la vie courante.
Et en France, quelle est la situation? Comment on se situe par rapport aux autres pays?
Alors en France, on n'est globalement pas si mal, on n'est pas les meilleurs, loin de là, mais on n'est pas les pires, si on peut parler comme ça. En France, les études ont montré qu'on avait les études les plus récentes, qui est une étude qui s'appelle OBEPI, qui a l'intérêt d'être répétée depuis plusieurs années. Et la dernière étude date de 2020 et montrait qu'il y avait 17% des adultes en obésité et que si on considérait surpoids plus obésité, c'est qu'était 46% de la population française. Alors, il s'agit d'une étude qui est faite par sondage, donc avec un échantillon représentatif de la population française, mais des valeurs rapportées, c'est-à-dire c'est les gens qui déclarent leur poids et leur taille. Ils ont, avant de répondre ça, eu reçu des explications sur la façon dont il fallait se peser, se mesurer, etc. Et donc, ça nous donne une idée de l'évolution. Et si on considère ces chiffres, on arrive à plus de 8 millions des Français en obésité. Donc, c'est des chiffres importants, mais qui sont moindres que d'autres pays, notamment comme l'Allemagne ou l'Angleterre, ou bien sûr les États-Unis, qui ont des chiffres plus importants.
Et au sein de la France, y a-t-il des différences selon les endroits?
Il faut se rendre compte qu'il y a une grande hétérogénéité suivant les territoires et qu'en fait l'obésité est très liée au niveau socio-économique des personnes. Et en fait, même dans une même région, suivant, ou même une même ville, suivant les quartiers, il y aura une grosse différence entre l'incidence de l'obésité dans les quartiers, on va dire, riches, par rapport aux quartiers plus défavorisés. Et bien sûr, en France métropolitaine, on va retrouver une incidence globale plus élevée dans le nord et dans l'est. Et surtout, les pays d'outre-mer sont extrêmement sévèrement atteints, avec des chiffres d'obésité qui vont pouvoir monter jusqu'à 30% de la population, notamment une atteinte particulière chez les femmes. Par exemple, à La Réunion, les hommes ont un poids, une obésité qui n'est pas plus importante qu'en métropole, alors que les femmes ont une obésité qui va monter à 25, voire 28, 30% de la population féminine.
Vous l'avez dit, il y a une différence entre la France métropolitaine et les territoires ultramarins. Comment ça se fait?
Alors, ça revient à d'où vient l'obésité, hein, comment on arrive à vivre avec l'obésité, à avoir de l'obésité. En fait, l'obésité est comme on dit, multifactorielle. Il va y avoir une partie génétique et une partie qui est liée au comportement vis-à-vis de l'alimentation, de l'activité physique, etc. Mais le comportement lui-même est extrêmement dépendant de notre environnement. Alors, si on reprend les Outre-mer, d'une part, il y a une part génétique qui est retrouvée un peu plus fréquemment que en métropole, il y a des cas d'obésité génétique qui sont retrouvés en Outre-mer de façon un peu plus fréquente. Alors, il y a des obésités génétiques qu'on arrive à déterminer parce qu'il y aura un gène altéré. Et là, c'est ce qu'on appelle des obésités monogéniques, ce qui sont quand même très rares. Et puis, il y a des obésités qui sont liées plutôt à une susceptibilité génétique plus importante que ceux qui n'ont pas l'obésité. Et c'est un peu plus fréquent dans les Outre-mer. Sur l'environnement, eh bien évidemment, l'environnement joue un rôle très important. Notamment, eh bien, il y a quand même plus de pauvres en Outre-mer qu'en métropole. Et notamment, il y a beaucoup de familles monoparentales où c'est la femme, en fait, qui élève les enfants, qui travaille, etc., et qui se retrouve dans des situations difficiles socialement. Et là, ça joue un rôle très important. Il y a également des disparités liées à l'alimentation, avec une alimentation ultramarine qui est différente de la métropole, qui est déjà plus chère, notamment en ce qui concerne les fruits et légumes, avec énormément d'importations, les importations étant elles-mêmes favorisées par la réglementation, puisqu'il y a ce qu'on appelle l'octroi de mer, qui fait que les municipalités, les collectivités territoriales touchent de l'argent sur l'alimentation importée. Et donc, on favorise beaucoup l'alimentation importée par rapport à l'alimentation locale, qui est relativement peu favorisée et peu développée. Donc ça, c'est des facteurs qui vont faire qu'ils vont s'orienter vers une alimentation qui va être grasse moins bonne que ce qu'on peut trouver facilement en Outre-mer, avec en plus l'influence notamment pour les Antilles de la culture américaine et par exemple un développement du goût pour le sucre qui est plus important que ce qu'on trouve en métropole. Il y avait eu des polémiques sur les... les yaourts et le degré de sucre dans les yaourts, qui était plus important pour les mêmes types de yaourts en Outre-mer, et notamment aux Antilles, par rapport à ce qu'il y avait en métropole. Alors, il y a d'une part, il faut savoir qu'il y a la loi Luriel qui, normalement, régule cette quantité de sucre dans les aliments, enfin, dans les aliments manufacturés, pour qu'ils ne soient pas plus élevés qu'en métropole. Mais en fait, on va se retrouver toujours dans la fourchette la plus haute de la métropole pour être la base de ce qu'on va trouver en Outre-mer. Donc, il y a plein de facteurs vraiment sur l'alimentation qui sont importants et même sur l'activité physique. Il semble qu'il y ait beaucoup moins d'équipements sportifs dans les territoires ultramarins qu'en métropole. Et d'ailleurs, il y a eu une mission qui avait été demandée par le ministre François Braun, justement sur les équipements sportifs et avec une partie aussi développée sur les territoires ultramarins. Donc, c'est ces causes d'environnement, plus un terrain génétique un peu plus favorable, plus également des différences culturelles. Qui font que peut-être l'obésité est mieux vécue et considérée peut-être moins stigmatisée, avec notamment des modèles américains grosses et beaux, qui font que la sensibilité au fait que l'obésité puisse être une maladie est moins développée dans ces territoires.
En avril 2023, vous avez rendu le rapport Mieux prévenir et prendre en charge l'obésité en France au ministère de la Santé. Vous avez tout un volet qui se focalise notamment sur les territoires ultramarins. Que préconisez-vous?
Ce que je préconise pour les ultramarins, c'est qu'on fasse déjà la même chose que ce qu'on fait pour la métropole. C'est-à-dire que, effectivement, dans ce rapport, j'ai mis quatre axes. Un, la prévention. Deux, le soin. Trois, la recherche. Quatrièmement, les territoires ultramarins, avec 40 recommandations. Et en fait, pour les territoires ultramarins, ce que je disais, c'est que les recommandations pour la métropole sont valables et encore plus pour les territoires ultramarins. Et je pense que la situation est tellement grave dans les territoires ultramarins que même si on fait un peu, ça se verra. Ça se verra parce qu'il y a énormément à faire. Je prenais l'exemple de mes collègues de La Réunion qui ont fait un énorme travail. À La Réunion, ils ont réussi à travailler tous ensemble. C'est vraiment très important, aussi bien pour le soin que pour la prévention, de mettre autour de la table tous les acteurs. Les acteurs, c'est aussi les collectivités territoriales, c'est les hôpitaux, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, c'est la CLAM, la sécurité sociale, c'est aussi les associations de parents, les associations de patients, c'est l'école. Et en fait, quand on arrive à travailler tous ensemble pour un but commun, eh bien on arrive à faire des choses. Par exemple, à La Réunion, ils se sont focalisés sur la maternité, sur la femme enceinte en obésité qui a un risque de diabète gestationnel. Et donc, ils ont fait plein d'actions pour le traitement de ce diabète gestationnel ou la prévention, notamment avec une alimentation plus saine, de l'activité physique dédiée, sur les femmes enceintes, et puis un dépistage et une éducation nutritionnelle, et qui a, pas mal porté ses fruits. Donc, ce qui est très important, c'est vraiment d'être capable de réunir tous les acteurs dans un but commun. Peut-être limiter le but, on peut pas, d'un coup, transformer la situation en fonction de la situation locale. On va voir ce qui est le plus facile à faire, mais en travaillant tous ensemble, on arrive à avoir des résultats.
Un an à peu près après avoir rendu votre rapport, avez-vous constaté des changements, que ce soit sur les politiques, sur les choses qui sont mises en place?
Alors le problème des politiques, c'est que mon rapport a été rendu en avril à deux ministres, Jean-Christophe Combe, qui était le ministre des Solidarités, du Handicap, et François Braun, qui était le ministre de la Santé et de la Prévention, qui n'étaient plus en poste en juillet, qui ont été remplacés par Aurore Berger pour les Solidarités et par Aurélien Rousseau pour la Santé et la Prévention. Mon rapport est passé d'un endroit à un autre. Enfin, c'est toujours le même endroit, mais c'est plus les mêmes gens. Il a fallu attendre, mettons, le mois de septembre, octobre, novembre pour qu'on m'en reparle. Et malheureusement, le ministre Aurélien Rousseau a démissionné et l'ensemble du gouvernement a démissionné. Donc, nous sommes maintenant en mars et il y a donc, s'est mis en place un nouveau ministère. Donc, Madame Vautrin, qui cumule bien sûr le travail, les solidarités et la santé. Et on a un ministre délégué qui s'occupe de la santé et de la prévention. Donc, les contacts sont en train de se renouer pour arriver un an après, peut-être à faire quelque chose, mais pour l'instant, j'attends encore un peu. En parallèle, il se passe quand même des choses, hein. D'une part, il y a des choses importantes sur le soin qui se passent, qui sont les innovations en santé. Il y a eu une démarche pour faire des expérimentations, pour changer un peu les modalités de soins. Et mes collègues dans le domaine de l'obésité ont proposé plein de projets. Il y a 11 projets qui concernent l'obésité et qui vont proposer des forfaits de soins, un forfait global où les patients seront à la fois pris en charge médicalement, mais également par des paramédicaux, diététiciennes, psychologues, infirmières, éducateurs à l'activité physique adaptée. Et là, c'est vraiment un grand espoir. On parlait des Outre-mer. Il y a ces innovations en santé, article 51, qui s'appelle Pralimap, qui se déroule en Guadeloupe, où dans les collèges, il y a un dépistage des enfants en surpoids, en obésité, et ils vont pouvoir participer à un programme d'éducation qui concernera l'alimentation, l'activité physique. Et donc, ces programmes d'innovation sont actuellement en évaluation. Et si l'évaluation est correcte, ils vont passer dans le soin courant. Donc, ça transformera beaucoup la modalité actuelle de prise en charge de l'obésité, pour lequel, malheureusement, si la consultation médicale est bien prise en charge, les consultations de paramédicaux ne le sont pas.
Ce qu'on comprend, c'est la nécessité d'une prise en charge globale.
Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment une prise en charge globale et ça se vérifie à la fois pour la prévention, qui doit aussi être multifactorielle, jouer sur tous les paramètres qui influencent l'évolution du poids, mais aussi dans le soin où il faut accompagner les patients, à la fois déjà faire un bon bilan de santé pour voir s'il n'y a pas de complications et les traiter, bien sûr, et en parallèle les aider à ces modifications du mode de vie qui sont pas faciles à faire tout seul. Mais là, on a besoin de l'aide des paramédicaux et c'est en équipe qu'on peut aider les patients. Et ça permet notamment dans ces innovations en santé, il y a à la fois la consultation individuelle avec le médecin et les paramédicaux, mais il y a aussi des temps de concertation en équipe pour discuter des patients et définir ensemble la meilleure stratégie.
Avez-vous quelque chose à ajouter?
Je crois que ce qui est très important, c'est l'information. Et là, les médias, vous avez un rôle important pour lutter contre la stigmatisation, hein. Il y a trop d'idées reçues sur l'obésité qui, d'une part, font que les gens en vivant avec l'obésité se sentent méprisés et d'autre part, qui font qu'ils vont pas aller consulter, ils vont pas aller aux soins en se disant de toute façon, on va me renvoyer chez moi en me disant que j'ai qu'à manger mieux et bouger. Alors que, effectivement, quand on vit avec l'obésité, ben, ces choses-là ne sont pas faciles et il y a besoin d'un accompagnement. Donc, plus on expliquera que l'obésité, c'est pas la faute des gens et il y a Madame Anne-Sophie Joly, qui est la présidente du collectif CNAO, du collectif des associations d'obèses, qui vient d'écrire un livre, gros, je c'est pas mon choix d'être gros ou grosse, qui explique un peu, elle a fait ça avec un journalisme, toutes les conséquences néfastes de la stigmatisation. Il y a également un groupe avec des médecins et des patients qui font de la recherche sur comment lutter contre la stigmatisation. Et c'est des choses importantes, mais là où les médias, votre radio, ont un rôle. Et notamment, c'est extrêmement important aussi chez les enfants, puisqu'il y a parfois du harcèlement scolaire pour des enfants vivant avec l'obésité, qui évidemment bien est très délétère et fait qu'aggraver la situation.
Merci à vous, Martine Laville, professeure de nutrition aux Hospices civils de Lyon, d'avoir répondu aux questions d'Euradio.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.